MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.
Et bien voilà les amis, nous sommes ici au Palais des Festivals de Cannes, Salon des Ambassadeurs. On est très bien parce qu'il ne pleut pas aujourd'hui, donc tant mieux. Édition 2025 du MIPIM, il est 14h23 exactement. Et nous poursuivons notre route jusqu'à ce soir avec beaucoup de programmes et notamment les acteurs de premier plan qui font la ville, qui fabriquent la ville au quotidien et qui logent surtout essentiellement les Français. C'est le logement d'ailleurs dont on va parler. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau, il est habitué d'ailleurs de nos plateaux. Bonjour David Chouraki.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Directeur général adjoint du Crédit Agricole Immobilier, David Chouraki. Quand on vient ici au MIPIM, dans votre position, qu'est-ce qu'on y trouve? Qu'est-ce qu'on vient y chercher?
Le MIPIM, c'est un endroit de rencontre, c'est un carrefour. On rencontre énormément d'acteurs, on prend la température aussi du marché, des envies, des ambitions des différents groupes. Donc c'est un moment de partage, de rencontre, d'échange aussi, comme on le fait là tous les deux, on le fait avec l'ensemble des acteurs avec lesquels on travaille au quotidien.
Alors justement, on le voit aujourd'hui, toutes les classes d'actifs seront représentées, et d'ailleurs la question du logement est de plus en plus développée au MIPIM, qui à l'origine était beaucoup plus orientée bureaux ou grands ensembles. De plus en plus, effectivement, le logement prend une part significative, et on le voit d'ailleurs même avec les collectivités locales qui ont élargi leur spectre pour faire ce qu'on appelle du marketing territorial ou du marketing d'influence dans le but de faire venir les investisseurs sur leur secteur. On le voit, de plus en plus ça commence à être compliqué. Je vous donne quelques chiffres. Le marché de la location privée s'est rétréci quasiment de moitié quand on voit qu'aujourd'hui, d'une année sur l'autre, sur les deux dernières années, selon le moteur de recherche Bien Ici, 49% d'annonces de location en moins. Et je ne vous parle pas des grandes métropoles où c'est carrément une galère. 17% des étudiants ont renoncé leurs études en septembre 2024. Et on annonce pour 2025 un peu plus de 20% de jeunes qui renonceront aux études faute de logements disponibles près des écoles. Pire que cela, on voit un déclassement des classes seniors qui arrivent à la retraite, dont le revenu de remplacement a baissé de 30 à 40%. Avec des chiffres qui sont assez hétéroclites. Bref, la question du logement est loin d'être réglée. Je vous mets en parallèle deux choses. David, j'aimerais avoir votre réaction. Vous connaissez ces chiffres-là. Pourtant, on a vu que la ministre du Logement a pu obtenir au forceps l'élargissement du PTZ à la maison individuelle, et ce sur l'ensemble du territoire, qui est plutôt une bonne nouvelle. La possibilité de déduire une partie des donations dans le cas d'un achat en primo-accession, malgré la hausse des DMTO, des droits de mutation. Il semblerait qu'avec la baisse des taux d'intérêt, on ait des couleurs un peu vert pâle qui font penser que le marché va repartir. Quand on voit ces éléments à la fois pour, à la fois contre, et qu'on est aujourd'hui l'un des acteurs de premier plan en immobilier, ce qui est votre cas, quelle analyse vous dressez aujourd'hui du marché?
Alors, il y a deux sujets différents. Il y a le sujet de la location, il y a le sujet de la transaction, de l'achat, de la vente. Sur la location, je peux que aller dans votre sens. On a, un taux de rotation des logements que l'on gère qui est tombé de 25% à 18%. On n'a pas, c'est moins 50% dont on parle, mais on a clairement une machine qui s'est grippée, qui fonctionne très mal, avec une difficulté de se loger dans l'ensemble des villes de France, que ce soit pour les étudiants, mais ce dispositif bloqué, en fait, il concerne tous les Français. On a certaines annonces de location qu'on ne passe plus nous-mêmes sur les moteurs de recherche, parce que simplement sur nos propres sites, on trouve des locataires. Il y a certains logements qu'on met en location, qu'on commercialise, et on est appelé 200 fois dans la matinée pour une même annonce. Donc ce blocage-là sur la location, il est très fort. Et pour l'instant, on n'a pas de signaux de redémarrage sur ce sujet-là. Sur le sujet de la transaction, de l'achat et de la vente, là, pour le coup, on a plutôt le sentiment qu'il y a un vrai redémarrage depuis la fin d'année dernière, sur l'effet cumulé à la fois des baisses de taux et des baisses de prix. Alors, les prix n'ont pas baissé assez pour que les ménages retrouvent le pouvoir d'achat immobilier qu'ils avaient il y a 3 ans. Mais il y a un vrai redémarrage qui commence d'ailleurs par l'accession et la primo-accession.
Vous confirmez la tendance de la reprise ?
Oui, nous, on a le sentiment aujourd'hui qu'il y a une reprise et que cette reprise, elle est plutôt solide. Ça fait plusieurs mois désormais qu'on l'a...
Et vous le voyez dans vos chiffres ?
On le lit dans les chiffres, on le lit dans les offres acceptées, on le lit dans les compromis. Donc, on voit que c'est en train de redémarrer. Pourquoi ça redémarre ? Parce qu'il y a un certain nombre de ménages qui ne peuvent pas attendre de réaliser leur projet de vie. Donc, c'est des projets immobiliers, mais c'est avant tout des projets de vie. C'est des ménages qui ont pu reformater leur projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire peut-être moins grand. D'accord. Ça veut dire pas dans le même secteur. Et d'ailleurs, nous, en tant que professionnels de l'immobilier, on est là pour justement les conseiller, les accompagner dans le meilleur projet, le projet qui peut aller au bout.
Alors, indépendamment du climat politique, le marché, si je vous dis que dès qu'on baisse le taux d'intérêt, le marché repart, c'est mécanique. Vous y croyez à cela ? Ou est-ce qu'il faut nécessairement que ça s'accompagne d'un tassement ou d'endiguer la hausse des prix ?
C'est la même chose. C'est la même chose, parce qu'à la fin, c'est combien coûte l'opération globalement pour un ménage. Donc, le taux d'intérêt va gérer le coût global, intérêt compris, de son opération. Mmh. Et le prix, c'est le
Mais
prix.
Mais quand les taux d'intérêt étaient très bas et que les prix étaient très hauts, ça se vendait. Tout se vendait.
Oui, les prix étaient très hauts. Ils n'ont pas, si on fait les calculs aujourd'hui, ils n'ont pas. On dit souvent qu'on a perdu une pièce. Hein, en termes de pouvoir d'achat, on a perdu entre 20 et 25% de pouvoir d'achat. Donc effectivement, on n'a pas encore retrouvé dans la baisse des prix cette capacité à acheter. On a des prix, alors c'est très différent selon les villes, mais on a des prix qui ont diminué de 5 à 12, 13%. Ce n'est pas suffisant pour restaurer la capacité d'achat perdue par les ménages.
Alors, on va parler d'un autre sujet justement sur la copropriété et notamment les enjeux finalement assez différents de la rénovation énergétique. Je pense que vous l'avez vu comme moi, il y a 3 semaines, au Parlement, à l'Assemblée nationale exactement, Annaïg Le Meur prenait la parole et interpellait Valérie Létard, ministre du Logement, dans une allocution publique. Elle dit la chose suivante, selon une étude qui a été reprise d'ailleurs par le gouvernement d'une société qui s'appelle Carénov, il semblerait qu'il y ait sur 8 millions de DPE réalisés, 1 300 000 DPE frauduleux. La Fédération FedExpert, qui regroupe 3200 diagnostiqueurs, estime la fraude à plus de 2 millions de DPE. Vous le savez, le DPE, c'est un peu l'alpha et l'oméga, à la fois de l'achat, de la location, et que depuis qu'on a doté le DPE d'un outil juridique qui s'appelle le caractère opposable, ou la dimension opposable du DPE, il devient dans la shortlist des choix, la note énergétique devient déterminante. Et d'ailleurs, c'est un effet de cote ou de surcote, voire même de décote. Quand on voit les chiffres, on se dit, c'est vertigineux, c'est un véritable enjeu. Et du coup, on se dit, quand on met en lumière les problématiques d'allocation de MaPrimeRénov', dont le budget a baissé considérablement, non pas par une volonté de l'État de vouloir baisser, mais par la non-réutilisation du reste de la prime qui était constatée sur 2024, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Quand on se dit qu'au même moment, au niveau des copropriétés, avec MaPrimeSérénité, l'élargissement de MaPrimeRénov' à la copropriété, on se retrouve dans 2 cadres qui sont très difficiles à appréhender et on a du mal à trouver la solution, qui est celui du propriétaire bailleur et du propriétaire occupant.
Sur la rénovation, aujourd'hui, c'est un sujet central, puisque une des premières questions posées par les acheteurs, c'est la note énergétique. Hein, la lettre, elle est
confirmée. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Hein.
Extrêmement
importante. Shortlist.
Elle est extrêmement importante. Je ne peux pas commenter effectivement la fiabilité du DPE et je pense qu'il faut plutôt qu'on aille vers une fiabilisation progressive du DPE. Mais la question.
Mais on fait comment pour endiguer les DPE qui sont des DPE qui ne reflètent pas la note réelle ?
La question de la rénovation énergétique, effectivement, aujourd'hui, elle est clé. Elle est clé notamment dans la copropriété. Alors, quand on parle de MaPrimeRénov', on parle d'une partie seulement du financement de la rénovation énergétique. Là où il faut avoir un discours de vérité, c'est que de toute façon, ça coûtera aux copropriétaires, ça coûtera aux propriétaires de rénover énergétiquement les logements. Alors, MaPrimeRénov a été beaucoup utilisée pour ce qu'on appelle des monogestes, hein, et notamment pour la mise en place de pompes à chaleur. Et du coup, il y a eu la volonté d'aller plutôt vers des rénovations globales, mais il y a eu énormément de rénovations. Alors souvent, on dit ça ne marche pas. Si, ça a fonctionné. Et il faut dire qu'il y a eu des centaines de milliers de logements qui ont été rénovés et dont l'efficacité énergétique s'est améliorée. Là où c'est plus difficile aujourd'hui, c'est en copropriété. D'abord parce qu'il y a une gouvernance de la copropriété qu'on connaît bien en France et qui ralentit effectivement les projets. On doit d'abord faire un diagnostic, ensuite on doit faire un plan travaux et ensuite on doit lancer un certain nombre d'opérations, on doit voter ces travaux. Et le texte qui va sortir et qui va mettre en œuvre le nouveau prêt copropriété va accélérer les choses. Et c'est pour ça que l'enveloppe qui avait été mise en place pour la rénovation en copropriété n'a pas été complètement consommée. Mais j'allais dire, j'aimerais être plutôt prospectif. Et je pense que l'important, c'est de rénover. C'est d'accompagner justement les copropriétés dans leur rénovation. C'est à la fois des économies d'énergie, c'est des économies sonnantes et trébuchantes pour l'ensemble des propriétaires.
Alors, effectivement, le problème des DPE qu'on appelle frauduleux, c'est le problème de déclassement du DPE, du style « il est en G, soyez sympa, un petit billet, et s'en rendez, par exemple. Bon, on a du mal à le contrôler. Donc là, la ministre du Logement, alors je ne vous demande pas, bien sûr, de vous positionner ne serait-ce que politiquement, je comprends, mais quand la ministre du Logement dit on va faire une carte d'identité pour les diagnostiqueurs, avoir un QR code qui permet de vérifier, par exemple, en scannant juste le QR code, si le diagnostiqueur il est bien professionnel, etc. Qu'on pense à deux mesures qui sont annoncées, c'est l'eurodatage et la géolocalisation. Vous dites chapeau, bien, c'est une bonne idée.
Tout ce qui peut renforcer la fiabilité des outils avec lesquels on travaille au quotidien va dans le bon sens.
Bien sûr, d'accord. L'idée, c'est d'arriver à cela. Maintenant, question sur les prix. Est-ce que vous croyez, comme chacun peut, avec l'hétérogénéité aussi territoriale, on voit que, par exemple, Nantes et Bordeaux continuent un peu à baisser, mais on voit qu'il y a des plateaux, voire même que ça augmente un peu avec justement la baisse des taux directeurs de la BCE. Est-ce qu'il n'y a pas un cercle infernal dont on n'arrivera pas à sortir sur notamment l'augmentation des prix, indépendamment des faits, du fait qu'on a des taux d'intérêt qui sont bas. Est-ce qu'il n'y a pas un effet mécanique? Est-ce que finalement les vendeurs ne feront-ils pas payer aux porteurs de projets, comme ça a été le cas pendant longtemps dans des années, la baisse des taux d'intérêt?
En tout cas, la baisse...
On ne peut pas réglementer, ça ne se réglemente pas, ça.
En tout cas, pas du tout. La baisse, aujourd'hui, je pense, est finie dans un certain nombre de métropoles. Hein. Il y a eu une baisse depuis deux ans. Effectivement, nous, on observe un certain tassement. Et ce redémarrage, il se fait sans doute parce que l'ensemble des acteurs se dit c'est le moment. On est à un moment où nous, par exemple, on prend plus de mandats de vente. Donc ça veut dire que les vendeurs considèrent qu'il y a une stabilisation du marché.
D'accord.
Et que c'est le bon moment
au prix.
Pour faire. Exactement.
Au prix. Exactement. Au prix. Alors, question sur la dernière question sur la location. Quand on est vous gérez des milliers de lots, c'est quoi la solution pour rendre au marché locatif des biens plus fluide, et surtout les petites surfaces qui sont aujourd'hui les premières victimes du dispositif. Alors, est-ce que le fait d'accuser, par exemple, Airbnb, la location saisonnière, c'est pas un raccourci un peu rapide? Et peut-être, est-ce que, par exemple, la commission qui va être désignée, d'ailleurs ça a été fait, sur la réflexion du statut du bailleur privé, peut-être également, peut-être une piste qui inciterait les bailleurs à, en location longue, de remettre les biens qu'ils mettaient peut-être en location saisonnière après l'adoption de la loi Lemeur, vous savez, qui a réaligné la fiscalité entre la fiscalité nue et la fiscalité saisonnière.
Alors, la réponse, elle est différente selon les secteurs géographiques. Il y a des secteurs qui sont extrêmement impactés par la location touristique. Je pense, par exemple, à toute la côte atlantique et notamment la région basque. La vérité sur la location, c'est qu'effectivement, le fait que la transaction reprenne va fluidifier la location, puisqu'on a vu à l'inverse que c'était le blocage du marché sur la transaction qui avait bloqué le marché de la location. Donc, en effet, tout ce qui permet à l'investisseur individuel de prendre confiance dans l'immobilier va dans le bon sens.
Donc le statut du bailleur privé, ça serait pour vous une très belle nouvelle.
Et le statut du bailleur privé, ça donne du sens, ça donne un cap, clairement. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de législations, de réglementations qui font peur aux investisseurs. Donc tout ce qui va dans le sens de règles stables dans le temps, clair, va dans le sens de l'investissement. Les ménages ont envie d'investir dans la pierre. Ça reste un produit que les Français aiment. Et donc, je pense que cette stabilité va offrir, j'espère, une volonté d'investir.
Toute dernière question, comme ça, pronostic. Le S1 2025, le premier semestre 2025, plutôt bon pour le Crédit Agricole Immobilier ?
Je pense que le premier semestre 2025 va être un semestre de rebond, à la fois pour l'activité de transaction dans les 500 agences Square Habitat du Crédit Agricole et également un semestre de redémarrage de la location. En tout cas, c'est ce qu'on lit aujourd'hui dans nos chiffres.
Et toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci David Chouraki. Vous êtes directeur général adjoint au Crédit Agricole Immobilier. Il est 14h39. On a notre ami Grégoire qui est au Forum des élus. Il va nous rapporter quelques infos extrêmement intéressantes. À suivre la prochaine table ronde avec nos amis de Nexity. On va parler encore une fois avec les maires de France des difficultés aujourd'hui de transformation également des bâtiments et de l'aménagement public. C'est tout de suite après nos informations.
MIPIM 2025 en partenariat avec Envie de Ville by Nexity sur Radio Immo.